Bonjour à tous et bienvenue dans Sexologiquement Vôtre. Alors, dans ce podcast, nous interviewons des professionnels de tous les horizons dont la pratique se rapproche au domaine de la sexualité. L'objectif du podcast, en fait, c'est de pouvoir vous aider, vous, les thérapeutes et sexologues, et d'une façon générale, les professionnels de la santé, pour vous permettre de maintenir à jour vos connaissances et de mieux accompagner les gens qui souffrent de troubles sexuels. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'excision et d'une façon générale de ce qu'on appelle les MSF, autrement dit, les mutilations sexuelles féminines. Donc on va voir pas mal de choses. Quels sont les différents types de mutilations sexuelles? Quelles sont les populations qui généralement sont principalement concernées? Comment est-ce qu'on peut aborder le sujet? Comment est-ce qu'on peut accompagner les femmes qui se trouvent dans cette situation? Etc, etc. Et donc pour ça aujourd'hui, nous recevons Stéphanie Dugast. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Eric.
Alors Stéphanie, je vais te présenter rapidement. Je vais te tutoyer parce qu'en fait, comme tu fais partie de notre association, la TSF, on se connaît un peu, donc on va pas s'amuser à se vouvoyer. On se connaît pas extrêmement bien, mais quand même, on a quand même échangé assez régulièrement ensemble. Je vais commencer par te présenter. N'hésite pas à me corriger si j'oublie des choses. Tu es donc sage-femme, sexologue et thérapeute de couple. Tu pratiques à Carquefou, en Loire-Atlantique, près de Nantes. Tu as passé un diplôme en psychosexologie. Tu as également passé un DIU d'études de la sexualité humaine. Tu es formé à la sophrologie. Tu es formé à la thérapie sexo-fonctionnelle. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est dans la même association. Et tu es également formé à la thérapie conjugale positive. Est-ce que j'oublie des choses?
Oui, effectivement, tout ça, c'est OK. J'ai aussi une activité au centre hospitalier universitaire au CHU de Nantes, dans une unité qui s'appelle l'UGOMS, c'est l'unité de gynéco-obstétrique médico-psychosociale, qui est l'endroit où j'exerce mon activité de sexologue auprès des femmes qui ont eu des mutilations génitales.
Je vois que tu as également, dans le cadre de ton DIU, tu as fait un mémoire également sur la qualité de la vie sexuelle des femmes qui sont excisées et qui sont en demande de chirurgie réparatrice. Donc c'est un sujet que tu connais bien et c'est la raison pour laquelle on te reçoit aujourd'hui. Écoute, pour beaucoup de gens qui peuvent nous écouter et qui connaissent pas bien le sujet, déjà quand on parle de mutilation sexuelle féminine, est-ce qu'on sait à peu près à combien de femmes sont concernées sur le territoire français? Et ensuite, quels sont les différents types de mutilations qui existent?
Ouais. Alors effectivement, déjà au niveau des termes utilisés, ce qu'il faut savoir, c'est il y a plusieurs terminologies. Aujourd'hui, on est plutôt revenu sur l'appellation mutilation génitale, qui est l'appellation mondiale. Dans les années 70, de 70 à 2000, avec toute la mouvance féministe, on avait plutôt axé les conséquences de ces mutilations sur la santé sexuelle, sur la sexualité, donc on les appelait mutilations sexuelles. De manière générale, en fait, dans le langage courant, on parlera facilement d'excision, sachant que l'excision est un des types des mutilations génitales. Ça concerne beaucoup de femmes, de filles, de fillettes dans le monde. Le dernier recensement, il date de 2016. Et portait à 200 millions le nombre de femmes concernées. À savoir qu'en fait, il y a dans le monde, il y a 30 pays qui nous ont donné leurs chiffres. Et les chiffres sont difficiles d'accès, puisque pour accéder à des ressources démographiques, ce qui n'est pas évident, surtout dans certains pays en guerre. Au niveau des enquêtes sociologiques, celles qui sont faites en France, par exemple, on sait qu'on n'a pas le droit de faire d'enquête ethnique. Donc, il y a des chiffres auxquels on n'a pas accès. Dans les 30 pays qui nous donnent leurs données, la plupart des pays sont en Afrique. Il y a 27 pays en Afrique et on a des données d'Irak, du Yémen et d'Indonésie. Pour donner un peu l'ampleur, c'est que en 2013, le nombre de mutilations était à 125 000 dans le monde, sans compter l'Indonésie. L'Indonésie a été introduite et on est passé de 125 000 en 2013 à 200 000 en 2016 avec les données d'Indonésie. En Indonésie, c'est une femme sur deux qui est concernée. Et puis en Afrique, ce serait une femme sur trois qui sont réparties plutôt sur la partie nord de l'Afrique. Et les types d'excisions diffèrent selon les régions et les ethnies. Elles ne sont pas forcément associées à un pays en particulier, mais plutôt à des ethnies qui se retrouvent dans différents pays. Et puis ta question, c'était en France. En France, ça, c'est les chiffres de 2006. Il y aurait 45 000 à 60 000 femmes fillettes atteintes qui ont pu être excisées lors d'un retour en pays, par exemple. Donc ça peut être des fillettes qui sont nées sur le territoire français, mais lors de retour en vacances. Ont été excisés, soit c'était programmé, soit ça s'est fait à l'insu des parents.
D'accord. A priori, en France, il n'y a pas d'excisions qui sont pratiquées sur le territoire français?
A
Ou c'est pas trop?
priori, non. Si on est logique, il y en a probablement.
C'est quoi les causes de ces excisions? J'imagine que d'un pays à l'autre, il y a des causes qui peuvent être très différentes.
Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est effectivement, peut-être que c'est pratiqué en France, en tout cas, c'est interdit. Hein. Et puis, je ne sais pas si on abordera la loi, mais la loi française protège tout individu, de toute façon, à partir du moment où une personne, à la seconde, met son pied sur le territoire français, elle est protégée par la loi française. Donc, que l'excision ait eu lieu au pays ou lors d'un retour au pays, et même si la personne, la femme, n'est pas de nationalité française, n'a pas de papier, c'est interdit. Et les commanditaires de l'excision peuvent être poursuivis quand bien même l'excision n'a pas été faite en France.
Je crois d'ailleurs que même pour les femmes qui ne sont pas de nationalité française, un risque d'excision, ça peut faire l'objet d'une demande d'asile particulière et accélérée en
Oui,
France.
exactement, auprès de l'OFPRA, oui. Des certificats d'ailleurs qui sont rédigés dans ce sens-là pour protéger les petites filles. Donc on fait des certificats d'excision chez la maman et de non-excision chez la petite fille. C'est probablement un petit peu dissuasif.
Très bien. Au niveau des différents types d'excisions et de différents types de mutilations, du coup, on rentre sur un sujet qui est un peu difficile, mais qui correspond à une réalité très concrète. Donc, on parle de mutilation, mais c'est quel type de mutilation qu'on va constater?
Alors, peut-être revenir sur la définition de ce que c'est qu'une mutilation.
Ouais.
C'est toute atteinte définitive au niveau des organes génitaux qui n'est pas faite pour avoir un bénéfice sur la santé de la personne. Donc l'atteinte est définitive, elle peut être partielle ou totale en fonction des zones qui sont excisées. Et donc l'OMS va différencier quatre types de mutilation génitale. Il y a des sous-types, donc on va faire simple. C'est là que j'ai peut-être partagé un dessin. Alors ça, c'est des moulages qu'on utilise en atelier.
Ok, alors là, pour ceux qui regardent l'échange en vidéo, que ce soit sur YouTube, c'est également possible normalement sur Spotify. Stéphanie, tu es en train de nous montrer des moulages qui représentent les différents types. Sinon, je vais également les décrire à l'audio et également dans la description du podcast, je vais mettre un lien vers une image ou vers un PDF pour que vous puissiez également voir les différents types. Donc, je vais les commenter à l'audio, mais vous pouvez tout simplement voir l'image soit depuis la vidéo, soit en regardant le lien qui se trouve dans la description. Donc, tu peux nous décrire par exemple le premier type?
La mutilation type 1, en fait, concerne l'ablation partielle ou totale du gland du clitoris et du prépuce ou capuchon clitoridien. Parfois, il y a juste l'ablation du capuchon et le gland est plus ou moins intact. À savoir qu'en fonction de l'âge auquel c'est pratiqué, la précision de la coupure peut impacter justement le résultat définitif. Donc le type 1, c'est l'excision du gland ou du capuchon, les petites lèvres, qu'on appelle plutôt lèvres internes, étant intactes. Donc on voit, ça donne un aspect lisse, parce qu'en fait, il y a une cicatrice hein, qui va se former. Et c'est vrai qu'en regard de cette cicatrice, il y a des douleurs qui vont être résiduelles à la vie de la femme, hein, pour la plupart des femmes. 80% des femmes vont se plaindre de douleurs en regard de la cicatrice. Les tissus deviennent durs, ils perdent de l'élasticité et ça va vraiment impacter.
Oui, et puis à la base, c'est une zone qui est tellement innervée aussi que forcément ça doit être horriblement sensible, quoi.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, dans Le gland clitoridien, hein, il y a l'afférence de 8000 terminaisons nerveuses au niveau du gland. La principale complication, si on peut dire, immédiate d'une mutilation, c'est la douleur. La douleur telle qu'elle peut même parfois entraîner des états de choc. Des états de choc, et puis une douleur qui va rester inscrite dans la mémoire, dans le corps de la personne, puisque ça fait partie des sensations qui vont se réveiller lors d'événements dans un état de stress post-traumatique. Et puis l'autre complication immédiate, c'est les saignements, souvent très abondants, qui peuvent aller jusqu'à l'hémorragie. Donc si la personne peut accéder à un hôpital, peut-être que ça va bien se passer. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des excisions se font au village avec des méthodes traditionnelles, sans aucune asepsie, ni bien sûr aucune anesthésie. Puis avec des instruments qui vont servir à plusieurs petites filles, puisque c'est en général lors de cérémonies rituelles, des fêtes auxquelles elles sont conviées. Bien sûr, elles savent pas ce qui les attend. Elles savent qu'elles vont avoir des belles robes, des cadeaux, et en fait, elles passent les unes après les autres entre les mains des exciseuses. Et donc, du fait de ce manque d'asepsie, il y a des transmissions de virus, hein, de sida, hépatite, tétanos. Voilà, donc pour les complications immédiates. Je décris les autres types.
Oui.
En général, le type 2, il y a toujours un type 1 qui est associé, et on voit qu'il y a une ablation partielle ou totale des petites lèvres. Sachant que le type
2, c'est non seulement le gland du clitoris a été coupé, retiré, mais il y a également les petites lèvres, ou ce qu'on appelle les lèvres internes également, qui ont été
enlevées. Le type 2, ce sont les petites lèvres qui sont retirées, et en général, il y a le gland et le capuchon. Et là, on va différencier un type 2A, 2B. Bon, peu importe. Le type 2, c'est les petites lèvres, et parfois les grandes lèvres. C'est plus rare. Et le type 3, il va y avoir un accolement, une excision des petites lèvres ou des grandes lèvres, et avec un accolement de celles-ci qui vont réduire l'orifice vaginal, où on va juste rester un petit pertuis qui permet l'écoulement des règles et de l'urine. À savoir que sous la cicatrice de l'accolement, bah, parfois le gland du clitoris est intact ou très faiblement lésé.
Donc ça fonctionne comment? C'est-à-dire qu'on va recoudre les lèvres ensemble pour... C'est l'infibulation, c'est bien ça?
Alors,
on va recoudre...
C'est l'infibulation, oui.
Ouais.
Ça, c'est une pratique, c'est la pratique la plus ancienne qui a été retrouvée, qui avait lieu dans l'Égypte pharaonique. Et en fait, ce type 3, au début, était appelé excision pharaonique. Bon, ça date de longtemps dans les terminologies. Et en fait, les plus anciennes traces de mutilation génitale, donc elles datent de cette ère-là. Et en fait, le rituel associé, c'était d'offrir au Nil sacré, ses parties génitales en tant que rite de fertilité pour la femme, pour le couple. Voilà. Et donc, les lèvres sont accolées traditionnellement avec des épines d'acacia, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que autant il n'y a aucune méthode d'asepsie ni d'analgésie, mais pour cicatriser, c'est souvent des méthodes traditionnelles. On a pu lire des méthodes avec des cendres, de la blouse de vache, des choses comme ça. Donc on imagine toutes les infections. Et puis pour que les lèvres s'accolent comme ça, la petite fille, la jeune fille, a les jambes bandées pendant plusieurs jours, voire 2 semaines, pour justement permettre l'accolement des petites lèvres. Et donc avec toutes les rétentions urinaires que ça peut provoquer, les infections...
Donc là, dans la pratique, en fait, la vulve, il reste plus qu'un trou minuscule. Là, typiquement, bon, la sexualité, c'est un sujet vraiment parmi d'autres, mais par exemple, la pénétration d'un pénis devient complètement impossible, tellement l'entrée vaginale est devenue resserrée, quoi.
C'est ça. Et en fait, ça, c'est un des objectifs de cette mutilation de type 3, c'est d'assurer, entre autres, la virginité prémaritale, ou d'éviter que le que la femme mariée puisse avoir d'autres partenaires. Et donc, traditionnellement aussi, la femme est infibulée à l'adolescence, mais c'est souvent avant le mariage pour permettre cette fidélité. Et le mari va désinfibuler la femme le jour du mariage avec des méthodes qu'on pourrait qualifier d'aussi barbares que ce qui a été fait au départ.
En France, en fonction des différents mouvements démographiques, c'est quoi le type de mutilation qu'on retrouve le plus souvent ?
Alors, moi j'habite sur Nantes, en Loire-Atlantique, il y a une très grosse population guinéenne. En Guinée, c'est 97% des femmes qui sont concernées, et c'est plutôt du type 2.
D'accord, donc c'est le clitoris plus les petites lèvres
oui.
qui sont retirées. Ok. Et à la suite de ces mutilations, quelles sont généralement les demandes des femmes par rapport à ça?
Quand je les reçois en consultation?
Quand tu les reçois en consultation, ou est-ce qu'il y a des femmes par exemple qui n'ont pas de demande particulière? Comment est-ce que tu les reçois en consultation?
Ouais.
Comment est-ce que ça fonctionne?
Alors en fait, nous on les reçoit, on a un parcours fléché au CHU. Elles rentrent en général par une réunion d'information sur les mutilations génitales qui a lieu un vendredi par mois. Donc on reçoit le public, il y a souvent des associations qui sont présentes, certains professionnels aussi qui viennent se renseigner. Donc on explique l'état des lieux des mutilations, les conséquences sur la santé, la loi. Et puis à l'issue de cette réunion, certaines femmes sont adressées dans notre service, vont au secrétariat et donc là s'inscrivent pour une consultation d'orientation. Donc elles sont reçues par moi ou ma collègue qui est aussi sage-femme et sexologue. Et là, on va évaluer les conséquences de l'excision sur la santé de la femme, sur sa santé sexuelle, sa santé globale. C'est aussi l'occasion pour la femme de parler de son histoire de vie, de son parcours, parce qu'il faut savoir que ces mutilations qui sont des violences sont souvent associées à d'autres violences qui ont lieu au pays. Mariage forcé, violence conjugale, violence sexuelle, menace de mort. Et essayer aussi, au niveau de la santé sexuelle, au niveau des difficultés qu'elles peuvent nommer, d'essayer de faire la part des choses entre la part attribuable à la mutilation génitale et la part attribuable à d'autres limites dans la vie de la femme, dans son couple, qui peuvent expliquer les dysfonctions sexuelles. Donc c'est un petit peu une consultation de tri, d'orientation, et à l'issue de cette consultation, elles peuvent intégrer un parcours individuel avec donc un suivi en sexothérapie. Moi, effectivement, j'utilise beaucoup ma formation en sexo-fonctionnelle. Je fais un petit peu de méditation pleine conscience aussi, elles sont très réceptives à ça. Elles peuvent bénéficier de consultations avec une psychologue, une clinicienne. Puis après, il y a des assistantes sociales, il y a un médecin, il y a des consultations de gynécologie et un médecin chirurgien qui opère certaines femmes pour qui il pourrait y avoir un avantage à la chirurgie. Et certaines femmes, on leur propose aussi d'intégrer des groupes de parole. On appelle ça nos ateliers psychosexuaux, des groupes de parole où on parle de santé des femmes autour de l'excision. Donc la demande, on essaie d'aider les femmes à la verbaliser dès la première consultation pour permettre la bonne orientation. C'est souvent autour de la douleur quotidienne, la douleur pendant les rapports. Et puis, au niveau sexuel plus général, une demande d'avoir du désir, d'avoir du plaisir, d'avoir des sensations tout simplement. Parce que c'est vrai que le gland étant coupé, il y a une effraction des structures nerveuses et vasculaires. Donc ça va limiter l'accès au plaisir par une stimulation externe. Et on sait aussi que quand il y a de la douleur, il y a tout un cercle vicieux qui va s'installer au niveau du système nerveux sympathique, qui vont faire qu'elles vont avoir une moindre lubrification, il peut y avoir un vaginisme secondaire, des douleurs plus profondes lors des rapports. Et donc voilà, dans un contexte comme ça, le désir n'est pas au rendez-vous.
Donc le plus souvent, c'est trouble du désir et de façon assez évidente, des dyspareunies assez profondes. Oui. Et l'opération, parfois, ça peut être une solution, mais pas toujours.
Alors, l'opération, c'est un élément dans la reconstruction. Nous, nos statistiques, alors peut-être que dans d'autres endroits, l'approche est différente. On opère à peu près une femme sur 10. Ce qui est important, c'est de Ce qu'on leur explique bien, c'est que notre temporalité dans la prise en charge, c'est la leur. C'est-à-dire que on va pas opérer une femme qui demande à être opérée parce que, et c'était encore le cas cette semaine, parce que sa copine, qui est compatriote, qui l'héberge d'ailleurs, a été opérée, elle était très satisfaite et donc elle veut faire pareil. Cette dame en question ne s'était jamais regardée le sexe parce que c'est tabou, c'est interdit, ça porte malheur, elle s'était jamais explorée, donc voilà, donc on va prendre les choses à la base. La chirurgie, les bonnes indications de la chirurgie, c'est des douleurs cicatricielles, qu'elles soient quotidiennes, dans la vie quotidienne ou lors des relations sexuelles, donc les douleurs en regard du clitoris, sous la cicatrice. Et puis aussi, parfois, la chirurgie a un effet de levier un petit peu sur au niveau symbolique. C'est-à-dire que la femme, on lui a pris une part de son identité féminine en lui retirant cette partie de son sexe. Et là, par un acte volontaire d'aller vers la chirurgie, avec tout le travail dont elle va être actrice, ça va se réapproprier son identité. Et donc ça demande du temps. Plusieurs consultations. Alors, parfois, il y a des allées-venues. Il y a des dames qu'on va voir 4-5 fois. Et puis, finalement, on a bien avancé en sexothérapie. Elles se sont découvertes. Elles ont réussi à prendre du plaisir. Parce que bah, parfois, les dames n'ont pas de douleur. Hein. Ça arrive, elles n'ont pas de douleur. Mais elles se sont interdites le plaisir. Donc, elles s'autorisent, elles se découvrent. Et puis, elles ont la chance d'avoir un conjoint bienveillant qui les soutient, donc qui n'a pas de dysfonction sexuelle de son côté. Bon, donc ça marche comme ça. Et puis on les revoit pas. Et puis d'autres ne sont pas prêtes. Donc il y a un temps de maturation. À savoir qu'on reçoit aussi beaucoup de femmes qui sont arrivées sur le territoire français depuis peu. Ça peut être de 3 mois à 1 an, 2 ans. Donc c'est vrai que on a remarqué que chez certaines aussi, la chirurgie, c'est un petit peu un marqueur d'occidentalisation. Je vais être comme les blanches, comme les françaises, je vais retrouver mon clitoris. Voilà. Donc la chirurgie peut avoir aussi cet objectif-là, si c'est bien nommé par la femme, d'effet de levier sur la fonctionnalité sexuelle.
Voilà,
C'est-à-dire.
de reprise en main,
Exactement.
de reprise de pouvoir sur ce qui lui arrivait, quoi.
Exactement.
D'accord. L'objectif du podcast, c'est aussi qu'il puisse être utilisé par des gens qui peuvent accueillir des femmes, alors qu'il va y avoir parfois des sages-femmes, parfois des médecins généralistes, mais à qui on peut poser des questions liées à la sexualité, des sexothérapeutes, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'adresser aux professionnels de santé qui ont un peu tous les profils. Est-ce que tu recommandes aux professionnels de santé, par exemple, de poser systématiquement la question de la présence ou non de mutilations sexuelles pour pouvoir faire du dépistage?
Moi, par ailleurs, je suis très formée en violence,
Ouais.
en violence sexiste et sexuelle, donc violence en tout genre. Donc, c'est vrai qu'on sait que maintenant, ça fait partie des dépistages obligatoires. Quand on ouvre un dossier médical, quand on fait une ouverture de dossier, on doit poser la question des violences de tout type. Ben, je pense que ça peut être intéressant pour les femmes parce que beaucoup de femmes ne savent aussi pas qu'elles ont été excisées, puisqu'on n'en parle pas. Ça s'est fait, on n'a pas parlé des âges, mais en fonction des motifs invoqués, bah, l'âge n'est pas le même. Ça peut être par exemple tout bébé jusqu'à 3 ans, ça peut être pour différencier le petit garçon de la petite fille. Hein, on va enlever la partie masculine de la petite fille, qui est le gland du clitoris, tout comme on va enlever la partie féminine du petit garçon en faisant la circoncision. Ça peut être des rites prémaritaux pour assurer la virginité. Ça peut être des rites de fertilité. Dans certaines coutumes, le gland du clitoris est un dard qui serait dangereux. Et s'il est en contact avec le pénis ou avec la tête du bébé, ça peut être létal pour. Bon. C'était quoi ta question?
C'était, est-ce que tu recommanderais, par exemple, à un médecin ou à un professionnel en cabinet, en libéral, un sexothérapeute, un sexologue, bah, de poser systématiquement, la question de la présence
Oui,
de mutilation?
alors, en fait, je pense qu'il faut faire comme ça, c'est qu'il faut déjà avoir une information préalable sur les mutilations, dans quel pays ça se pratique, dans quelles ethnies. Effectivement, une dame qui est originaire de ce pays-là, d'autant plus qu'il ne serait pas né en France, mais on a vu qu'on pouvait aussi être né en France et revenir au pays pour être excisé. Mais une dame qui ne serait pas née en France, je pense qu'on peut aborder la question comme ça en disant, voilà, je sais que dans votre pays se pratique une intervention qui s'appelle excision. Alors souvent le terme des dames, c'est la coupure, l'excision, elles vont pas dire mutilation génitale. Donc voilà, je sais que vous êtes originaire de Guinée. Dans ce pays, il y a une pratique qui s'appelle l'excision, qui concerne la plupart des femmes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que vous savez si vous-même vous êtes concerné ou quelqu'un de votre famille l'est? Votre maman, une sœur, etc. Et soit la femme est au courant et on peut commencer à en parler et proposer de manière différée un examen. Voilà, on débat tranquillement. Soit la femme n'est pas au courant, il faut de toute façon lui proposer un second temps pour la reconvoquer une deuxième fois pour en parler. Il faut lui donner des coordonnées, je vais montrer tout à l'heure des coordonnées d'association, et bien sûr rappeler la loi. Donc c'est vrai qu'il faut être à l'aise avec ce sujet-là, et il y a des référentiels qui ont été faits pour les professionnels de santé pour justement savoir comment aborder.
Oui, parce que ça peut être un sujet qui peut être délicat à aborder quand on connaît pas bien et qu'on se pose la question. Donc il y a des référentiels pour se dire dès qu'une personne indique qu'elle est originaire directement ou indirectement de tel ou tel pays, c'est bien de poser systématiquement la question, et parfois le fait d'indiquer qu'on pose systématiquement la question, ça permet aussi de se décharger un peu, parce que si le caractère un peu systématique permet de dire voilà, c'est pas particulièrement que je calque situation à risque par rapport à vous, c'est quelque chose qu'on pose systématiquement par sécurité, quoi.
Oui, exactement.
Ok, très bien Stéphanie. Pour les gens qui souhaitent en savoir plus sur la question des mutilations sexuelles, est-ce que tu as des ressources que tu pourrais nous recommander qui seraient accessibles pour des professionnels de santé?
La dernière ressource qui a été mise en ligne, c'est par l'HAS en 2020, des recommandations pour tous les professionnels de première ligne, justement pour savoir comment aborder le sujet, quelle terminologie. Voilà.
Je vais vous mettre le lien dans la description d'épisode. Donc si vous allez dans la description d'épisode, vous aurez accès comme ça pour pouvoir vous renseigner et pour pouvoir réutiliser tout simplement lors de vos consultations ces ressources en face du public concerné.
Donc il y a ça, il y a l'association Excision Parlons-en et l'association du GAMS, c'est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles.
Très bien. De nouveau, pareil, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Est-ce qu'il y a des documentaires ou sinon d'autres ressources que tu pourrais nous recommander?
Un film qui est très bien, qui s'appelle Fleurs du désert. Un livre, alors là c'est de tête. Je crois qu'il s'appelle Hubert Prolongeau, qui a écrit un livre sur les réparations chirurgicales des mutilations, si je me trompe pas.
Ok, merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur ce sujet que tu souhaitais ajouter?
Oui, à propos des conséquences, on a parlé tout à l'heure des conséquences immédiates à court terme, concernaient donc les hémorragies, les infections. Savoir que la femme qui a une excision, du fait de la cicatrisation et des adhérences qui se forment, et de tout le contexte de violence autour de l'excision, va porter ses conséquences toute sa vie. Donc ça peut être au niveau de la sphère génito-urinaire, c'est des femmes qui ont souvent des troubles menstruels, des infections urinaires ou génitales à répétition. Lorsqu'il y a eu un stress post-traumatique, alors ça concerne quand même un tiers des femmes, 30% des femmes pour les mutilations sont concernées par un état de stress post-traumatique. Donc voilà, avec tous les comportements d'évitement, de phobie, les reviviscences, etc., qui peuvent se manifester de manière intrusive dans leur quotidien. 80% des femmes sont concernées par des troubles anxieux. Donc c'est voilà, il y a aussi souvent des troubles du sommeil qui sont associés. Et parfois aussi des troubles de la fertilité, hein, au décours d'un désir de grossesse, parce que finalement les infections ont été transmises lors de l'excision avec des trompes bouchées. par exemple. Voilà, donc c'est vrai que tout ça, ça rajoute sur le sentiment qu'elles ont déjà d'être différentes, l'émotion, des émotions comme la honte, hein, qu'elles vont souvent verbaliser, perte de confiance en soi. Donc c'est vrai que, encore une fois, enfin nous, notre approche, c'est pas d'aller vers la chirurgie comme un pansement qui aurait un effet baguette magique. C'est toutes ces étapes de réhabilitation qu'elles vont avoir, de cheminement. Bah, en fait, la chirurgie, c'est la petite cerise sur le gâteau à la fin, mais finalement, c'est tout le travail qu'elles vont faire, dont elles vont être actrices, qui va vraiment être efficace sur la suite. Alors c'est sûr
Donc
que la chirurgie. Oui.
c'est vraiment un accompagnement pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement la chirurgie, il y a un travail sexologique, un travail sur psychologique,
Alors, il n'y a
etc.
pas souvent la chirurgie et
Oui, une fois sur 10, t'avais dit, ouais,
voilà. Et
effectivement.
quand il y a la chirurgie, c'est vraiment des indications très précises. C'est en fait, hein, c'est tout simplement, c'est un acte qui est très simple, hein, c'est sous anesthésie générale. C'est souvent fait en ambulatoire si les conditions d'hébergement de la femme le permettent. Ça dure une demi-heure et puis on va aller inciser en dehors de la en regard de la cicatrice, on va aller tracter le moignon, le bourgeon clitoridien à l'extérieur qu'on va fixer. Et donc ça lève les adhérences, ça enlève les douleurs, c'est le premier objectif, et ça va rendre le gland accessible pour des modes de stimulation plus doux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le gland est rentré, enfin a été coupé, et donc quand il rentre, il va se fixer sur la symphyse pubienne. Le mode de stimulation qui est souvent utilisé, c'est des appuis très très forts. Alors, s'il n'y a pas de douleur, ça marche plus ou moins bien, mais s'il y en a, ça limite déjà cet accès-là au plaisir. Donc voilà, donc c'est vrai que de ressortir le gland, ça laisse une option, ça permet une option supplémentaire dans les sources de stimulation.
Et au niveau sexologique, j'imagine qu'on peut aussi accompagner le couple pour le guider, pour essayer de ressentir et trouver du plaisir, bah autrement que simplement sur la stimulation du gland du clitoris, puisque forcément là, généralement, il est peu accessible, voire complètement inaccessible, quoi.
Exactement. Il y a souvent aussi un travail plus global d'information sur la sexualité, sur les pratiques, alors sans transposer notre vision occidentale, hein, évidemment, mais on va proposer aux gens de s'ouvrir sur des stimulations beaucoup plus larges et peut-être plus sensuelles et moins sexuelles. Avec toute la place, bien sûr, des préliminaires, des préludes, voilà. À savoir que beaucoup de femmes ont défini un petit peu une bonne qualité de vie sexuelle au pays, c'est plutôt la répétition des rapports, la multiplicité des rapports,
Ouais, la fréquence.
plutôt que la fréquence et le temps consacré à la recherche de plaisir mutuel. Voilà, on essaie on en parle, on discute. Il ne s'agit pas de confronter des visions, bien sûr, des sexualités, mais on parle et c'est ce dont on parle d'ailleurs dans nos groupes de parole.
Groupe de parole, on parle par exemple bah, des différentes choses qu'on peut faire dans le dictionnaire érotique et sexuel, et ensuite chacune pourra y piocher un peu ce qui lui semble intéressant pour elle, pour son couple,
Tout
etc.,
à
quoi.
fait. Et il y a un autre objectif qu'on a pu identifier. Enfin, maintenant c'est un objectif, mais en fait ça nous a été transmis par les femmes dans ces groupes de parole. Bien sûr, on parle de santé sexuelle, on parle de sexe, et finalement elles sont très libres pour en parler avec un vocabulaire très simple, très cru. On rigole bien, mais en fait c'est surtout, elles nous le disent, c'est un des rares endroits où elles peuvent s'autoriser à parler librement de leur parcours, de leur sexualité, de leur volonté d'être réparée, de pas l'être, etc. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que y a beaucoup de diaspora dans ces communautés, et en fait, l'Afrique, c'est énorme, c'est un continent, mais en fait, on a vraiment l'impression que tout le monde se connaît. C'est-à-dire que la copine qui va être opérée, eh ben, elle va peut-être en parler à une compatriote, mais la compatriote, elle connaît quelqu'un qui en a un, et en fait, ça remonte comme ça très rapidement en Afrique, ça arrive au village, et là, c'est une histoire vraie. Par des jeux comme ça de transmission orale, la maman qui avait commandité l'excision de sa fille a su qu'elle avait été réparée en France. Les liens sont rompus, elle est rejetée par sa famille, elle est même aujourd'hui menacée de mort en France. Donc voilà. Donc ces groupes de parole, On démarre par redonner le cadre. Le cadre, c'est tout ce qui se dit dans ce groupe reste dans ce groupe. Ça ne fait pas partie du dossier médical des femmes et elles n'en parlent surtout pas à l'extérieur. Et qu'est-ce que c'est chouette pour elles de se libérer comme ça parce qu'elles n'ont jamais eu l'occasion de le faire en fait.
Oui, c'est vrai. Sur quelque chose aussi douloureux et en plus de ça, visiblement aussi tabou, oui, c'est vrai que du coup, ça doit être super précieux. Eh ben, écoute, c'est un sujet compliqué, mais extrêmement intéressant et touchant. Et tu peux nous rappeler du coup comment tu travailles au sein du CHU, comment fonctionne le service?
Oui, donc c'est un service qui est comment dire qui offre des soins pour les personnes en difficulté psychologique et sociale. En pratique, il y a beaucoup de femmes issues de l'immigration. Donc c'est un service de gynécologie d'obstétrique et donc avec ma collègue sage-femme sexologue, on reçoit donc c'est les femmes qui ont une excision pour un parcours de soins global autour de leur santé sexuelle.
Tu sais si c'est uniquement quelque chose qui est présent à Nantes ou si c'est quelque chose qu'on peut trouver dans d'autres CHU en France?
Alors, le plus connu, c'est la Maison des Femmes à Saint-Denis. Il y a un centre à Rennes, je crois. Il y a un chirurgien qui opère aussi sur Angers. Voilà, il n'y a pas beaucoup de centres. De manière isolée, il y a des gens qui font de la médecine sexuelle pour les femmes excisées, mais des centres pluridisciplinaires comme nous, il n'y en a pas beaucoup.
C'est ça. Donc pour les auditeurs, les auditrices, du coup, essayez de vous renseigner pour voir un peu ce qui peut être présent dans votre région, puisque ça peut être intéressant, de savoir que ça existe pour pouvoir éventuellement y rediriger les gens que vous rencontrez en consultation vers ce type de centre. On rappelle également l'association et le guide également qu'on va vous mettre en description du podcast pour savoir comment accueillir en consultation et les personnes qui sont dans cette situation, comment bien les interroger, comment ensuite les rediriger quand c'est nécessaire, les informations à leur donner, etc. Stéphanie, est-ce que t'as quelque chose à nous dire pour la fin?
Je crois qu'il faut pas avoir peur d'en parler. Faut nommer, comme maintenant, on nomme de plus en plus facilement les violences. Mais nommer, c'est facile quand on est formé, informé, quand on a un réseau à qui orienter, quand on est à l'aise avec le sujet. Ça passe par de la formation, et puis pourquoi pas demander des formations en institutionnel pour les personnes qui ont la chance de travailler en hôpital. Voilà.
Ok. Stéphanie, je crois pas que tu sois ni sur Instagram, ni particulièrement sur LinkedIn, ni quoi que ce soit.
Non, pas très réseau, non.
D'accord. Donc bon, si les gens ont vraiment envie de te contacter, ils peuvent du coup se diriger directement vers le CHU de Nantes ou bien en recherchant ton nom Stéphanie Dugast. Je sais que tu as un site internet pour accueillir les consultations. Donc éventuellement, si vraiment des auditrices ou des auditeurs souhaitent te contacter pour avoir plus d'informations, peut-être
Exactement.
qu'ils peuvent passer par ce biais-là.
Voilà.
Stéphanie, merci beaucoup pour tous ces partages.
Avec plaisir.
Et on vous dit du coup au mois prochain. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci toi aussi.